Cédric Châtelus, Anne Kobilac, Corinne Amard, Vincent Lecomte, Élodie Royer. Vous écoutez France Culture dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.
L'atelier fiction de ce soir poursuit l'itinéraire de Jacob Bronski. C'est la deuxième partie de Fuck America d'Edgar Ilsenrath, dont le narrateur est le double. L'écriture lui permet à lui, rescapé de l'Holocauste, de tout se permettre, y compris la provocation, y compris le refus de la révérence et de la bienséance. Il faut accepter d'entrer dans l'humour noir et dans le trash, dans le New York violent et décevant des années 50. On est loin de l'écriture convenue, mais le respect a valsé depuis longtemps. Fuck America a été adapté par Julien Douminck, réalisé par François Christophe.
Zilberstein's Employment Agency. Fermé pour cause de décès.
Putain, pas de bol. Qui a pu mourir? Sa femme? Sa mère? Son père? Quelqu'un d'autre de la famille?
Recherche jeune serveur Catskill Mountains. Super job. Pour week-end de 3 jours, $150 garantis. Étudiant uniquement.
C'est quoi ce job?
Il est pas pour toi, petit. T'es trop vieux. T'as pas vu l'affiche? C'est marqué recherche jeune serveur.
Mais je suis pas vieux.
Si, pour ce job-là, t'es trop vieux. Il s'agit d'un hôtel chic des Catskill Mountains. C'est là où vont les femmes juives friquées pour se faire sauter par les jeunes serveurs. Elles veulent de l'étudiant, exclusivement. Tu comprends? Du jeune.
J'ai qu'à dire que je suis étudiant.
T'as pas la tête de l'emploi, petit. Je peux pas t'envoyer là-bas. Le patron m'a dit qu'il faut qu'il soit jeune et étudiant.
Bah, que le patron aille se faire foutre!
D'accord, petit.
Fuck America, de Edgar Ilsenrath. Avec Quentin Bayot dans le rôle de Jacob Bronski. Deuxième partie.
La place est libre?
Ouais. Alors mon pote, toi aussi, t'es serveur?
Ouais, ça m'arrive.
Ça se voit, ton pantalon noir. Moi aussi, je travaille comme serveur à l'occasion. D'où le smoking. Je l'ai mis dès ce matin pour faire meilleure impression à l'agence.
Moi, j'ai tenté ma chance pour le job de serveur à l'hôtel des Catskill Mountains. Ce gros porc d'Irlandais m'a dit que j'étais trop vieux.
Ah ouais, je connais ce job. Mais faut dire que t'as plus 20 ans. Hein.
Et c'est quoi d'ailleurs cette histoire d'hôtel chic? C'est vrai que les femmes juives y vont pour se faire sauter par les jeunes serveurs?
Bah c'est vrai, petit.
Comment ça se passe?
Bah c'est très simple. Les maris de ces dames doivent ramener un bon paquet de fric à la maison pour offrir à leurs épouses une belle vie, bien confortable. Et puis pour envoyer leur gosse à la fac plus tard. Donc ils doivent rester à New York pour bosser pendant tous ces étés de merde. Tu piges?
Hein?
Mais ils ont envie de se débarrasser de leur gonzesse pendant un certain temps. Et de leur gosse aussi. Alors, pendant les grandes chaleurs, ils les envoient au frais dans un hôtel de luxe d'une station des Catskill Mountains.
Et ils savent, ces maris, que leurs femmes se font joyeusement sauter par des jeunes serveurs?
Mais ils le savent, ils font semblant de pas savoir.
Et pourquoi ces serveurs doivent être étudiants?
Parce que la clientèle féminine d'un hôtel de luxe ne baisera pas avec un serveur ordinaire.
Et pourquoi ces femmes veulent que des étudiants jeunes? Et il existe quand même des étudiants plus âgés. Ça a quelque chose à voir avec le culte de la jeunesse dans ce pays.
Ça a quelque chose à voir, oui.
Et pourquoi le serveur pourrait pas être un écrivain inconnu? Je sais pas, moi, avec une bonne bite. Un écrivain inconnu n'est pas un serveur ordinaire. Et les femmes peuvent venir se faire sauter en toute confiance.
Mais les patrons veulent pas d'écrivains inconnus. Soit parce qu'il est plus assez jeune, soit parce qu'un écrivain inconnu passe pour un clodo. Et ces femmes, eh ben, elles sont pas trop branchées clodo.
En tout cas, j'ai besoin d'un job.
T'as déjà frappé à toutes les agences?
Pas toutes.
Viens, je vais te montrer où trouver un job.
Ok.
Urgent. Recherche 20 serveurs pour ce soir. Frais d'agence, $3. Âge indifférent. Smoking impératif.
Alors, t'en dis quoi? J'avais déjà repéré cette affiche il y a une heure.
Pourquoi t'as pas pris le job?
Parce que le job coûte $3 et puis que j'ai pas $3.
Ah, c'est pas de bol. Ah, il est pas pour moi non plus, ce job. J'ai bien les $3, mais pas de smoking.
Mais c'est pas de bol. Et le job n'est pas à Manhattan. Je connais l'endroit, une sacrée trotte. Great Neck, c'est dit. Mais le job vaut le coup, hein, 300 balles.
Ça n'existe pas.
Si, ça existe.
Bah, nulle part, on peut se faire 300 balles la soirée.
Tu les gagneras pas en restant honnête, mais avec un peu de jugeote, tu peux les gagner. Écoute, petit, moi je te fais une proposition. J'ai un smoking, mais j'ai pas les $3. Toi, c'est le contraire, exact?
Exact.
Et si on s'aidait mutuellement, tu me prêtes $3 et moi je te prête un smoking.
T'as un autre smoking?
Oui, j'en ai encore un vieux, de mes débuts de serveur.
Ah, où ça?
Chez moi.
Je pense pas que t'es un chez toi.
C'est pas vraiment chez moi, le smoking est dans une valise.
Bah, elle est où, la valise?
Dans une cave, une vieille baraque sur Bowie. C'est là que je dors en ce moment.
Ok.
Tu le regretteras pas, parole d'honneur. Et écoute, petit, quand tu rentres dans l'agence, tu dis pas ton nom au type derrière le bureau. Invente un faux nom.
Au suivant. Comment tu t'appelles?
Robert McCormick.
T'as pas la tête de quelqu'un qui s'appelle McCormick?
J'ai quelle tête?
La tête d'un Fishbine ou d'un Cohen?
Va pour Fishbine.
T'as un smoking?
Oublié chez moi.
Inutile de me mentir. De toute façon, là-bas, vous pourrez pas bosser sans smoking. Si vous vous pointez sans smoking, on vous renvoie illico.
Mais j'en ai un, de smoking.
Ok, Fishbine. Maintenant, donne-moi les $3. Tiens. Au suivant.
Ouais, ouais. Quel nom t'as filé au type?
Eisenhower.
Comme notre président?
Exactement.
Mais tu t'appelles Eisenhower, sérieux?
Bien sûr que non. Mon vrai nom, on s'en fout, les gens m'appellent Pinky. Et toi, comment on t'appelle?
Bronski.
Ton nom, c'est Bronski, sérieux?
Sérieux?
Bon, Bronski, on passe vite fait par chez moi à prendre le smoking et on file prendre le train. Direction Great Neck City. Ok.
Alors, pour les 300 balles, ça marche comment?
Voilà comment. C'est une gigantesque boîte de merde. 200 tables environ. Une scène avec un groupe, enfin, un vrai big bang de merde. Beaucoup de serveurs, ils en ont jamais trop. C'est pour ça qu'ils ont besoin de vin extra ce soir. Il y a aussi un maître d'hôtel, quelques jolies femmes qui jouent à l'hôtesse, des videurs et, bien sûr, le boss.
Mais qui a envoyé ces clodos?
L'agence.
Enfin, ces types ne se sont pas lavés depuis au moins un an. Si on travaille avec des serveurs pareils, on peut bientôt fermer la boîte.
J'ai dit à l'agence de s'abstenir de nous envoyer des clodos.
Allez, allez, renvoyez-moi ça chez eux.
Ce n'est pas possible. Ce soir, nous avons besoin de tout le monde.
Allez, filez dans les cuisines et faites-vous donner une serpillière par le plongeur. Et rincez vos smokings à l'eau chaude et au café noir.
Ensuite, revenez voir à mon bureau, compris?
Alors, voilà comment ça va se passer. Aucun client ne paie à la caisse comme c'est l'usage. Mais c'est les serveurs qui encaissent l'argent. Le boss, évidemment, il sait exactement combien chaque serveur va encaisser parce que tu peux rien sortir des cuisines et du bar sans laisser un bon. Le maître d'hôtel te donne un paquet de bons vierges. À chaque fois que tu emportes quelque chose, tu laisses un bon, tu marques ton nom, ton numéro de serveur et le prix des boissons et des plats en question. Du coup, le boss, il sait parfaitement ce que tu vas encaisser. Pigé.
Pigé?
Dans ce genre de boîte, tu fais $300 de recette au moins. Vers 4h du mat, quand la boîte ferme, on fait les comptes, tu donnes l'argent au boss et tu reçois ton pourcentage. 10%.
Alors, comment t'arrives à 300 balles, hein?
On va pas attendre la fermeture à 4h du mat. Un peu avant, je te ferai signe. Et on se rejoindra aux toilettes.
T'as combien?
Pas tout à fait 300. Seulement 280.
Mais c'est pas si mal.
Et toi, combien?
320.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
On se tire. Ah bon, attends. On peut pas passer par la porte de derrière parce que les surveillants nous verront. Là.
Et par l'entrée?
Il y a les videurs en plus du portier.
Mais comment on fait?
On va passer par les cuisines. À côté du lave-vaisselle, il y a une sortie pour les poubelles.
C'est pas louche, hein?
Non, non, les cuisines, c'est pas louche. Les serveurs sortent souvent par là pour prendre l'air quand c'est calme.
Et maintenant, on fait quoi? On court jusqu'à la gare?
Non, 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 c'est trop long d'attendre le prochain train. On fonce à la section de taxi.
Hier, mercredi 2 septembre 1953. Hier, j'ai terminé le chapitre 10 de mon futur best-seller, Le Branleur.
Le Branleur.
J'ai pensé qu'une pause ne pouvait pas faire de mal. J'ai décidé d'aller au dancing. Naturellement, j'espérais rencontrer une jeune fille. Vers minuit, je suis allé au Friendship Club, le bal des cœurs solitaires. Là, on voyait sur ma figure que j'étais fauché. Bronski, ici les gonzesses les plus jeunes ont au moins 40 ans. Mais elles prennent des airs parce qu'elles sont plus jeunes que les autres. T'as aucune chance. Si tu veux être sûr que ça marche, vaut mieux viser une vieille. Là, ça marchera peut-être.
Bonsoir. Vous voulez danser?
Avec plaisir.
Cette bonne femme a au moins 65 ans. Écoute, Bronski, un trou, c'est un trou. Et si jamais tu devais coucher avec elle ce soir, dis-lui de pas enlever son dentier. Tu vas y arriver. Tu vas bander, sûr. T'en as tellement besoin. Nom d'un chien. La femme était pas si mal. Encore bien roulée, des jambes potables. Pendant le slow, elle serrait ses vieux nichons contre moi. Je l'ai invitée à prendre un verre. Elle m'a demandé si j'avais un bon job. J'ai dit, très bon même. La vieille m'a raconté qu'elle habitait Coney Island. Elle m'a demandé si je voulais la ramener chez elle en voiture. Quand je lui ai dit que ce soir, j'avais pas pris ma voiture, elle m'a planté. Et je suis rentré prendre une douche froide.
Bronski, t'as la bite tellement raide que tu vas devenir dingue.
Pourtant, t'as aucune envie de te branler ni d'aller voir une pute. Il te reste qu'une solution.
L'agence matrimoniale.
J'aimerais une fille dans les 25 ans.
Pas possible. Vous êtes trop vieux.
J'ai 27 ans.
Mais vous faites plus. Pourrions en avoir 40.
Je sais.
En Amérique, les femmes recherchent des hommes du même âge. Ce qui compte, ce n'est pas l'âge que vous avez réellement, mais l'âge que vous faites. Si vous faites 40 ans, aucune fille de 25 ans ne voudra de vous. À moins que vous soyez millionnaire, ça changerait tout.
Je suis pas millionnaire.
Mais j'aurais peut-être une demoiselle à vous proposer qui, à vrai dire, n'est plus vraiment toute jeune. Elle a 38 ans.
38 ans?
Elle a 38 ans, mais elle en fait 30. Autrement dit, 10 de moins que vous qui en faites 40.
10 ans de moins que moi?
Absolument. Si on s'en tenait aux règles habituelles, vous n'auriez aucune chance. Mais je pourrais tenter le coup.
Ah, ok.
Vous avez un revenu fixe?
Oui.
Combien?
150 par semaine.
Mais c'est pas mal du tout.
J'en suis content.
Il ne faut jamais se contenter de ses revenus. Vous pouvez me le dire à moi, mais surtout, ne le dites jamais à la fille. Un homme doit avoir de l'ambition. Il doit être déterminé et aller de l'avant. Sans quoi, c'est à rater. Vous faites quoi, au juste?
Je suis journaliste.
Quel journal vous emploie?
Aucun.
Alors, comment pouvez-vous être journaliste?
Je suis freelance.
Ah. Regardez bien cette demoiselle. Elle vous plaît?
C'est pas vraiment mon genre. Un peu trop grosse, je trouve. En plus, elle a des lunettes.
Mais c'est le portrait craché d'Elizabeth Taylor. Ouais, Elizabeth Taylor, avec quelques kilos, quelques années en plus, et des lunettes.
Shirley Schwartz, 38 ans, juive, 1m75, 75 kilos. Aimant la musique, le théâtre, le cinéma et la nature. Profession, secrétaire de direction.
Bronski, de toute manière, tu veux pas l'épouser, seulement la baiser vite fait.
Vous ne voulez pas de cette demoiselle?
C'est pas ton genre, mais elle est secrétaire de direction.
Je peux vous en montrer d'autres.
Et tu vas enfin avoir l'occasion de baiser une authentique secrétaire de direction.
Je vais faire un essai avec elle, parce qu'elle est secrétaire de direction.
Ah, une secrétaire de direction, c'est pas quelque chose, ça?
Oh, si.
Ça vous fait $50, hein? Si ça ne marche pas avec cette demoiselle, je vous en présente d'autres, hein, sans que vous ayez à débourser quoi que ce soit.
Là, présentement, j'ai que $20.
Ah bah alors donnez-moi 20. Mais je vous préviens, si ça marche pas avec la demoiselle, je vous en présenterai pas d'autres, hein, tant que vous ne m'aurez pas payé le reste.
Ok. Mais comment je vais la rencontrer, la fille?
On vous donne le numéro de téléphone de la fille, son adresse, et vous l'appelez, tout simplement.
Quand est-ce que je peux l'appeler?
Demain, seulement. Hein? Le temps qu'on l'appelle, qu'on lui donne votre adresse et votre numéro de téléphone. En plus de tous les renseignements sur votre personne. Naturellement, vous pouvez aussi attendre un peu. Ça fait meilleure impression.
Allô?
Putain, Bronski, qu'est-ce qui t'arrive? T'as failli jouir? Ta bite en érection frappe contre le fil du téléphone. Ici Jacob Bronski.
C'est vous qui venez d'appeler?
Oui, mais la ligne était mauvaise.
Ah, donc vous êtes Jacob Bronski?
Oui, et je suppose que vous êtes Miss Schwartz.
Appelez-moi Shirley.
Ok, Shirley.
Puis-je vous appeler Jacob?
Évidemment.
Mr. Newman m'a beaucoup parlé de vous.
L'agent matrimonial?
Je n'aime pas ce mot.
Moi non plus. Et qu'est-ce qu'il a dit de moi, Mr. Newman?
Il a dit que vous étiez exactement l'homme qu'il me fallait.
C'est ce qu'il m'a dit aussi.
C'est vrai que vous êtes journaliste?
Oui.
Pour quel journal écrivez-vous?
Ça dépend.
Je lis régulièrement le Herald Tribune, parfois aussi le Times, mais je n'ai encore jamais vu votre nom.
J'écris sous pseudonyme.
Pouvez-vous me le dévoiler?
Non.
Pourquoi non?
Parce qu'il y a trop d'enjeux. Mes articles sont très controversés.
Vos articles sont politiques?
Oui.
Vous n'avez quand même pas attaqué le président des États-Unis d'Amérique?
Et si, je l'ai fait.
Et le sénateur McCarthy?
Évidemment, lui aussi.
Comme c'est passionnant. Vous avez aussi écrit sur la question noire?
C'est mon sujet de prédilection.
Et le problème des portoricains?
Aussi.
Vous ne trouvez pas ça affreux que les portoricains fassent autant de gosses? On dirait presque des rats.
Ils aiment baiser, c'est tout.
Vous dites?
Ah, pardonnez-moi, c'est pas ce que je voulais dire.
Il faudrait leur apprendre le contrôle des naissances.
Très juste.
Les Noirs aussi font beaucoup de gosses, même si c'est un peu moins que les Portoricains.
Eh oui.
En revanche, les Portoricains ont un meilleur sens de la famille. Au moins, leurs enfants ont un véritable foyer. Chez les Noirs, c'est vraiment terrible. Les petits-enfants noirs me font pitié.
Vous avez bien raison.
Et qui doit payer?
Bronski.
Pour les enfants, je veux dire.
Tu sens encore ta bite frapper le fil du téléphone.
Nous, Jacob, vous et moi.
C'est vrai.
Il faut que tu baisses ce trou du cul débile aujourd'hui même.
Mr. Newman,
il te faut de toute urgence une bonne chatte bien chaude.
C'est cela, oui.
Un journaliste freelance peut gagner autant? Je veux dire, toutes les semaines?
En fait, non. Souvent, je gagne bien plus. Je n'ai indiqué à Mr. Newman que mon revenu moyen approximatif. Mais j'ai peut-être été un peu trop modeste.
Donc, en vérité, vous gagnez plus?
Oui.
Vous allez souvent au théâtre?
Ça fait trop longtemps que t'as pas eu de femme.
Comme journaliste, vous devez souvent...
T'es encore jeune et t'écris un livre.
Exact.
L'écriture te sera plus facile si tu te détends.
Quelle est votre actrice préférée?
Ingrid Bergman.
Ah, la plupart des hommes rêvent de Marilyn Monroe.
Non, c'est pas mon genre.
Vous rêvez d'Ingrid Bergman?
Exact.
C'est comment?
Pendant la nuit, sous ma couette, je la fais descendre de l'écran et puis je la plotte gentiment.
Vous plaisantez?
Et j'en suis pas si sûr.
C'est pas très classe.
En même temps que ton sperme, tu balanceras entre les jambes de cette gourde ton stress, ta solitude, tes désirs, tes rêves.
Jacob, vous êtes encore là ?
Oui. Que dites-vous de ce soir ? On pourrait se rencontrer quelque part.
Ce n'est pas possible, désolé.
Pourquoi ?
Parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi et j'ai déjà un autre rendez-vous.
Avec un jeune homme ?
Bien entendu.
Et demain ?
Demain, c'est samedi. Ce sera encore moins possible. Demain aussi, j'ai un rendez-vous.
Mais moi, je suis seul, hein, et j'aimerais bien vous voir ce soir.
Vous n'avez pas la moindre petite amie ?
Ah non ?
C'est tout à fait regrettable. Rappelez-moi la semaine prochaine. Le mieux, ce serait dès lundi, à cause de mon agenda. Peut-être pouvons-nous arranger quelque chose pour samedi en 8 ?
Ok. À lundi, alors. Bon, ski. Demain, tu retournes nous voir, cet enfoiré d'agent matrimonial.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Et tout ça, c'est beaucoup trop lent pour moi.
Vous devez être patient, c'est tout.
Patient ?
Oui. Asseyez-vous. Miss Schwartz m'a tout raconté. Vous l'avez déçue. Mais entre-temps, j'ai tout arrangé.
Pourquoi elle a été déçue ?
Mais il ne faut jamais dire à une jeune femme qu'on est seule. Parce que ça signifie qu'on est un raté.
Ah, j'y avais pas pensé.
Et puis, il ne faut jamais demander à une jeune femme si elle compte vous rencontrer le soir même. Ce n'est pas convenable. Vous vous comportez comme si vous ignoriez que dans ce pays, une fille ne peut pas admettre qu'elle n'a pas de rendez-vous le week-end. Vous comprenez ?
Oui.
Une femme qui a réussi n'est pas seule. De même qu'un homme qui a réussi n'est pas seul.
Ah oui.
Dans ce pays, la pauvreté et la solitude sont une infamie. Si je peux vous donner un conseil, ne parlez jamais de pauvreté ou de solitude.
J'ai jamais parlé de pauvreté.
Mais de solitude ?
Oui, c'est vrai.
Comme je viens de le dire, j'ai tout arrangé. Miss Schwartz attend votre appel lundi. Vous verrez, vous l'aurez votre rendez-vous.
Bon, d'accord. Samedi à 7h. Vous m'invitez à dîner ?
Évidemment.
Dans un endroit sympa ?
Naturellement.
Je m'en réjouis d'avance. Vous venez me chercher ?
Avec plaisir.
Je vous attendrai devant chez moi. Avec votre voiture, vous vous arrêtez un instant, puis je monte très vite. Comme ça, vous n'aurez pas de problème de parking.
Ok.
À quoi ressemble votre voiture ?
C'est important ?
Naturellement. Il faut bien que je la reconnaisse.
Elle est rouge. Une Jaguar rouge.
Vous conduisez une Jaguar ?
Exact.
Neuve ?
Flambant neuve.
Très bien, Jacob. À samedi.
À samedi.
Shirley ?
Bonjour, Jacob. Approchez. Venez sous le porche. Vous êtes déjà trempé.
C'est pas grave.
Où est la Jaguar ?
Elle n'a pas voulu démarrer, malheureusement. Je l'ai laissée au garage.
Quel dommage. Comment allons-nous faire, alors ?
Je sais pas.
Vous pourriez aller chercher un taxi ? Je vous attends ici.
Ok.
Bransky, cette fille ne pèse pas 75 kilos, comme te l'a dit l'agent matrimonial. Elle en pèse 52 plus, au bas mot. Et puis, la photo qu'il t'a montrée est probablement une photo de jeunesse. Un truc vieux comme le monde. Elle a pas 38 ans, hein, mais 48 minimum. Et puis, elle fait pas 10 ans de moins. Et puis, elle va vouloir aller dans un endroit branché, et en taxi. Et puis après, elle voudra certainement encore aller dans une boîte de nuit, parce que c'est samedi, et qu'il sera trop tôt pour rentrer.
On a un chien, Bronski. Dans quelle merdier tu t'es fourré ?
Et puis, tu pourras même pas la baiser ce soir, parce qu'elle vit chez ses parents. Et parce qu'elle refusera de t'accompagner dans ta piole. Tu connais ce genre de fille. D'ailleurs, là, t'as débandé. En la voyant, ta bite est devenue tout d'un coup toute flasque et molle.
Bronski, sois malin. Tire-toi de là.
Depuis des semaines, tu souffres d'une soif anormale. Qu'est-ce qui t'arrive ? Plus tu bois, plus t'as soif.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
Pourtant, les grandes chaleurs de l'été sont passées depuis longtemps. Tu dors mal. Tu te réveilles presque toutes les heures pour boire de l'eau et aller aux toilettes.
Monsieur Bronski, vous êtes malade ?
Pourquoi n'allez-vous pas voir un docteur, monsieur Bronski ?
Cela empire de jour en jour. Pour écrire, t'es passé du café habituel au Coca-Cola. Sur ta table de travail, les bouteilles vides s'accumulent. Mais le pire, c'est que tu as sans arrêt envie de pisser. Évidemment, cela ralentit l'écriture et tu n'arrives même plus à te concentrer.
Bronski, faut que t'ailles voir un docteur.
Vous avez du diabète, monsieur Bronski. Vous avez des antécédents dans votre famille?
Ouais, mes deux grands-mères étaient diabétiques.
Vu vos analyses d'urine et votre examen sanguin, vous ne pourrez pas vous soigner avec des comprimés. Il vous faudra des injections.
D'insuline?
D'insuline. En plus de votre hyperglycémie, vous avez une intoxication, une acidocétose. Conséquence typique d'un diabète aigu longtemps ignoré et non soigné.
Docteur, j'ai entendu parler de vertiges chez certaines personnes, de diabétiques qui, comme ça, tombent en pleine rue.
Ouais, ça vient de l'insuline. On appelle ça un choc insulinique. Cela se produit chez des patients qui ont injecté une dose trop forte ou mangé irrégulièrement. Si vous avez une crise, mangez un morceau de sucre, tout simplement.
Je croyais qu'il fallait surtout pas manger de sucre.
Généralement, les diabétiques ont une glycémie trop élevée. Mais parfois, à cause de l'insuline, elle chute brusquement et devient trop basse. Donc, en cas de crise, il faut manger du sucre. C'est comme ça.
Et la crise passe?
La plupart du temps, oui.
Et sinon?
Certains meurent d'une telle crise.
Docteur, ces crises me font peur.
Il ne faut pas avoir peur, vous devez juste avoir une vie bien réglée. Et alors vous n'aurez pas de crise.
Avoir une vie bien réglée, vous dites?
Tout juste. Dormir régulièrement, manger régulièrement. Pas d'excès, pas d'efforts trop importants, pas de stress. Les plus petites irrégularités créent chez le diabétique des troubles du métabolisme et influent sur l'efficacité de l'insuline.
Et c'est là qu'arrivent les crises?
Exact.
Docteur, vous savez, je suis écrivain. Un diabétique peut-il encore écrire?
Vous pouvez griffonner autant que vous voulez, si tant est que vous arrivez à vous concentrer.
Justement.
Ça dépend de votre mode de vie. Si le métabolisme est bon, ce qui dépend encore une fois d'un mode de vie bien réglé, alors vous arriverez à vous concentrer.
Mais je peux pas avoir une vie bien réglée.
Il va falloir.
Au revoir, docteur.
Au revoir.
Docteur, dites-moi, comment ça se passe pour la baise? Un diabétique, il a encore le droit de baiser?
Il a le droit, à condition qu'il y arrive.
Et si vous voulez dire?
Certains diabétiques deviennent impuissants.
Oh, ça sera mon cas?
Je n'en sais rien.
Bronski, les gens te fixent du regard. Pourquoi tout le monde regarde ta bite? T'as plus que quelques dollars en poche, tu dois chercher un nouveau job. Prends le métro et va à Warren Street. Pense plus à ta bite. Le docteur a voulu te faire peur, c'est tout.
Ta bite va bien.
Ta bite va bien.
Ta bite va bien, c'est tout.
Désolé Bronski, mais je n'ai pas de job pour toi.
Mais il faut bien que je fasse quelque chose, Mickey.
Va voir dans les autres agences.
Mais là-bas, on me connaît pas. Et puis ça sert à rien. Je peux plus travailler comme serveur, ni comme plongeur. Et un laveur de vitres ou de voiture, ça gagne rien. Je pourrais rebosser comme portier.
J'ai pas ça pour le moment.
Mais t'as pas autre chose? N'importe quoi?
Pas pour le moment. Attends, Bronski. J'ai peut-être quelque chose pour toi.
T'as quoi?
Tiens. Juste le job qu'il te faut.
Dame d'un certain âge cherche monsieur qui accepterait de promener son chien.
Alors t'en dis quoi, Bronski? C'est pour toi, ça? Pour ma part, tu peux flageoler et trembler autant que tu veux. Le chien ne viendra pas se plaindre chez moi.
Ben, combien ça paie?
La dame paie 3 dollars pour le job.
Ben, ça me fait pas vivre.
Tu pourrais promener 2 chiens. J'en ai un autre. Le chien d'un vieux monsieur. Lui aussi, il paye 3 dollars. 2 chiens, 6 dollars.
C'est peu.
Si tu te restreins, tu peux tenir le coup.
Ah, ok, Mickey. Je bosse 7 jours sur 7, puisque les chiens sortent aussi le samedi et le dimanche. Le compte est simple. Deux propriétaires de chiens me payent 6 dollars au total. Je gagne donc 42 dollars la semaine. Je m'en sors pas si mal que ça. Et puis le job n'est pas difficile. tôt le matin, je dois aller chercher les chiens et les promener pendant environ une heure pour qu'ils se dépensent un peu. Et le soir, rebelote. Évidemment, je dois veiller à ce qu'ils vident leurs intestins et puissent un bon coup. Les sages disent qu'il n'y a pas de job sans problème. Même ce job facile me donne parfois du fil à retordre. Les chiens pissent contre toutes les voitures garées au bord du trottoir. Ça me cause des ennuis avec les propriétaires ou avec leurs chauffeurs, surtout sur Park Avenue où sont garées les limousines de la haute, les Rolls-Royce et Cadillac. Mais je ne peux éviter Park Avenue vu que les deux propriétaires de chiens y habitent. Un autre problème est qu'il ne s'agit pas de chiens, mais de chiennes.
Écoutez, jeune homme, Dolly est vierge. Elle est encore parfaitement innocente. Vous devez veiller à ce qu'aucun chien dans la rue ne lui monte dessus. Et si jamais Dolly attend des petits, vous pouvez dire adieu à votre job.
Je ferai très attention à Dolly. Vous faites pas de soucis.
Ça suffit, Dolly.
Je fais terriblement attention à Dolly. Pourtant, l'autre jour, j'étais en train de regarder la vitrine d'une librairie quand est passé un type avec un grand mastif. Un mâle, évidemment. Le type s'est arrêté à côté de moi. Lui aussi semblait s'intéresser au livre. Tout à coup, j'ai dû avoir un pressentiment, je me suis retourné. Juste au moment où le grand mastif reniflait le derrière de ma Dolly, avant de lui sauter dessus, la bite en érection.
Oh, putain, Bronski, ça a failli te coûter ton job.
Depuis que j'ai ce job toutou, j'arrive mieux à gérer mon temps. J'écris plus la nuit, mais dans l'après-midi. Je prends mes repas aux heures prescrites par le docteur et je me couche tôt. Au fond, je suis content. Je suis économe, j'évite les putes, je prends des douches froides pour calmer ma bite qui fonctionne toujours, et je constate que le branleur, malgré l'absence d'inspiration nocturne, progresse aussi à la lumière du jour. Un jour, mon cher Bronski, tu auras réussi. Un jour, la dernière ligne du branleur sera couchée sur le papier.
Monsieur Bronski, il y a eu un appel pour vous. Quelqu'un de votre famille, j'ai oublié le nom, malheureusement.
Ouais, je vois qui c'est.
Vous devez le rappeler.
Merci beaucoup. Je le ferai.
C'est un oncle à vous ?
Non. Le beau-frère américain d'une tante gazée en Europe.
Un juif américain ?
Non. Mais un qui vit ici depuis une bonne trentaine d'années.
Il a dit qu'il habite à Brooklyn. Bah, sûrement un beau type.
Au contraire, il est plein aux as.
Bonjour, Jacob. Ça fait plaisir de t'entendre.
Il est arrivé quelque chose ? Un enterrement ? Un mariage ?
Nous déménageons dans notre nouvelle maison à Long Island. Une petite crémaillère. Tu viendras ?
Ok.
Nous allons t'envoyer un carton avec la nouvelle adresse. La fête a lieu samedi prochain.
Samedi. Ok. Bronski, ils veulent te montrer leur nouvelle maison. Ils veulent te montrer qu'ils ont réussi. Qu'ils ont des enfants, une maison avec jardin, une voiture neuve, un revenu régulier et appréciable. Qu'ils t'emmerdent, toi, Jacob Bronski, qui leur a fait peur en arrivant au port sans un cent sans poche, parce qu'ils croyaient que tu voulais quelque chose d'eux. Mais tu voulais rien.
Vous êtes vraiment un Bronski ?
Absolument.
Mon père a connu les Bronski de Hall en 1926.
Je venais de naître.
Je pensais que les Bronski n'avaient pas survécu à la guerre en Europe.
Mais ils ont survécu.
Vos parents aussi ?
Absolument.
Ils sont là aujourd'hui ?
Non.
Où sont-ils ?
Ils sont partis en Californie.
Et vous recevez régulièrement du courrier ?
Très rarement.
Comment ça se fait ?
Nous n'avons plus rien à nous dire.
Je ne comprends pas.
Ouais, moi non plus.
Jacob ? Hein ? Jacob, viens. Faut que je te présente quelqu'un. Voici mon cousin Jacob, un écrivain en herbe. Et voici mon ami Johan, secrétaire de direction. Bonjour.
Bonjour.
Bon, ben, excusez-moi, je vous abandonne un instant.
Votre cousine vient de me raconter que vous avez travaillé un peu comme coursier dans Madison Avenue. C'est vrai, ça ?
C'est vrai. Hein?
Moi aussi, je travaille dans Madison Avenue.
Ah, où ça? Chez un éditeur?
Non, chez un publicitaire. Vous êtes vraiment écrivain?
Ouais, je suis écrivain.
Votre cousine m'a raconté que vous n'aviez encore rien publié.
Bah, pas encore.
Oh, comme c'est dommage.
Ouais, je trouve aussi.
Quels sont vos plus grands problèmes?
Des problèmes d'argent.
Oh, votre mère vous obsède?
C'est quoi cette question?
Tout le monde est obsédé par sa mère.
Ouais, ça se peut.
Il faut dire que je m'intéresse à la psychologie. Avez-vous déjà entendu parler de Freud?
Non, jamais, non.
Je vous crois pas. Tout le monde a déjà entendu parler de Freud.
Pas moi.
Vous me faites marcher.
Sûrement pas.
Oh, mais si, vous me faites marcher.
Bronski, t'es vraiment un con. Où t'es allé chercher que tu connaissais pas Freud? Toi qui voulais la baiser aujourd'hui coûte que coûte, c'est raté. Ma logeuse vient de s'acheter une télé. Comme elle se couche dès 9h, je peux rester, soir après soir, seul dans le salon. J'allume la télé et je reste scotché devant l'écran. Il y a un programme qui me captive particulièrement. L'heure pédagogique. La star de l'émission est Mary Stone, la psychologue la plus célèbre des États-Unis. Je retiens tout ce qu'elle dit. Je connais chaque ridule de son visage. Chaque geste étudié, le son de sa voix, l'expression de ses yeux, son sourire sympathique et impersonnel. Il n'y a que son odeur que je connais pas. Une fois par semaine, entre 22h et 23h, Mary Stone explique aux Américains comment devenir heureux. Cher Mary Stone, moi, Jacob Bronski, je peux pas me payer un psychiatre, ni même une psychologue. C'est pourquoi je vous prierai de bien vouloir m'aider par pure humanité dans mes problèmes. Puis-je venir dans votre cabinet? Quelles sont vos heures de consultation? Respectueusement vôtre, Jacob Bronski.
Très cher monsieur Bronski, pour qui vous prenez-vous? Moi, Mary Stone. Je suis la psychologue la plus célèbre des États-Unis. J'ai des millions de fans qui m'écrivent des centaines de milliers de lettres. Tous veulent quelque chose. Qu'est-ce que vous vous imaginez? Que je peux m'occuper individuellement de tout le monde?
C'est impossible.
Nous avons tous nos problèmes, croyez-moi.
Respectueusement
vôtre. Mary Stone.
Cher Mary Stone.
Merci beaucoup pour votre lettre.
Merci beaucoup.
Vous savez, dernièrement, j'ai rencontré une femme frigide. Elle est venue chez moi, et moi, Jacob Bronski, je l'ai rendue heureuse. Avec l'un de mes nombreux petits trucs, elle a atteint l'orgasme, mais un vrai de vrai. Avec moi, Jacob Bronski. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous n'auriez pas envie de tenter l'expérience avec moi? Je pose naturellement une condition. Si j'arrive, avec l'un de mes nombreux petits trucs, à vous rendre heureuse, vous devez en contrepartie me soigner gratuitement. Car moi, Jacob Bronski, j'ai de toute urgence besoin d'un psychiatre ou d'une psychologue. Respectueusement vôtre, Jacob Bronski.
Mon Jacob Bronski, chéri. Enfin, vous êtes l'homme que j'ai attendu toute ma vie. Enfin, vous avez saisi mon problème. Si vous arrivez à faire ce que vous m'avez promis, je serai tout à fait prête à vous soigner gratuitement. Ce soir, laissez votre téléviseur allumé. Juste après mon émission, je descendrai de l'écran et viendrai me glisser dans votre lit. Bien à vous, Mary Stone.
Dieu aime l'Amérique, car l'Amérique est
sa. Moi, le clodo Jacob Bronski, je ne suis pas certain que le poète Jacob Bronski sache que ses lettres n'existent que dans son imagination. La seule chose dont je suis certain, c'est que le poète Jacob Bronski n'éteindra pas sa télé ce soir.
Cherchez la clé de votre réussite en vous-même. Ne vous laissez pas décourager, car il est écrit « Cherchez et vous trouverez ».
Mary Stone se faufile dans ma chambre et se glisse dans mon lit. Je la plotte un peu et je sais bientôt où est son problème. Je pense à tous mes petits trucs. Je choisis le bon et la soigne. Voilà.
Comment vous vous sentez?
Comme un bébé. Je n'ai jamais connu ça.
Vous voyez? Pour ça, il faut venir voir Jacob Bronski.
Jacob Bronski.
Je vous ai soigné dans les règles de l'art. Et maintenant, à vous de tenir parole. À vous de me soigner.
Vous désirez une analyse?
Absolument.
Racontez-moi ce que vous voulez, Jacob Bronski.
Que voulez-vous que je raconte?
Commencez par votre enfance.
C'est trop ennuyeux.
Alors, allez encore plus loin dans le passé. Remontez au-delà de vos souvenirs.
Au commencement, était la peur. À vrai dire, c'était chaud et confortable dans le ventre de ma mère, et pourtant, j'avais peur. Une peur terrible. Ce fut comme si, minuscule embryon déjà, je savais ce qui m'attendait dehors. Comme si je savais que le moment de la naissance est aussi celui d'une condamnation à mort. Je m'agrippais de toutes mes forces au cordon ombilical de ma mère, décidé à ne pas me laisser expulser vers ce monde-ci.
Dieu qui est beau. Je voudrais toujours garder mon petit Jacob ainsi. Aie pitié de lui. Il a toujours cette peur étrange. Je la ressens physiquement. Ne le fais plus grandir. Laisse-le en moi pour toujours. Je le garderai bien au chaud. Je serai bonne avec lui. Et je le nourrirai de mon sang.
Le bon Dieu a-t-il répondu à votre mère?
Je ne sais pas. Mais je sais que ma mère a répondu à sa place.
Ça ne marchera pas. Aucune mère dans ce monde ne peut garder son enfant pour l'éternité. Une mère n'arrive déjà pas à garder son enfant, ne serait-ce que le temps de sa propre vie. Ce qui fait quand même beaucoup moins que l'éternité.
La vie est courte. Les mères aussi doivent mourir.
C'est pourquoi je devais sortir de son ventre pour vivre un moment et pour mourir un jour. Que ce fût avant ou après ma mère.
Continuez votre récit.
Quand commencèrent les contractions, je poussais ma petite tête un peu en avant. Mais ça ne marcha pas très bien parce que j'étais accroupi. Je fis de puissants efforts et finalement je réussis. J'ouvris grand un œil, le gauche, et en une fraction de seconde, j'eus une vision furtive de ce bas monde.
Qu'avez-vous vu?
D'abord, je ne vis que mon père, ce fumeur acharné. Il se tenait à côté du lit en fumant et regardait, fasciné, le ventre de ma mère. Je vis aussi la sage-femme avec son tablier blanc. Elle avait des mains gigantesques qui me faisaient peur parce que je savais que ses mains allaient bientôt m'attraper, moi, Jacob Bronski, pour me traîner sur l'étal du boucher.
Quel étal du boucher?
L'étal du boucher que l'on nomme la terre.
Continuez votre récit.
Je vis aussi deux hommes qui se tenaient dans notre jardin et regardaient par la fenêtre de la chambre à coucher. Deux nazis. Ils se tenaient là, l'uniforme au grand complet, la croix gammée sur le brassard.
Je parie que ce sera un garçon.
Je crois aussi.
Ce sera un juif, j'en suis sûr.
Pourquoi ça?
Parce que les parents sont juifs. Écoute, quand il sera grand, on le foutra dans une chambre à gaz.
Et que s'est-il passé ensuite?
Ensuite, la sage-femme m'attrapa avec ses mains gigantesques. Elle demanda à mon père, qui fumait une cigarette après l'autre, de lui passer la paire de ciseaux.
coupa le cordon ombilical, me souleva dans les airs, m'essuya le visage et me donna une tape sur les fesses. Assailli d'une peur folle, je poussai mon premier cri. Mon père rit et faillit avaler sa cigarette. La sage-femme aussi rit. Même ma mère, qui pourtant aurait voulu me garder, se mit à rire tout d'un coup. Les deux nazis près de la fenêtre ricanèrent. On me baigna et me nettoya avec soin. Les gens de ma famille vinrent tous les jours. D'abord pour causer avec ma mère, ensuite pour m'admirer.
Sa quéquette ressemble à celle d'un goy.
Parce qu'elle n'est pas encore circoncise.
Et quand va-t-il être circoncis ?
Demain.
C'est pour qu'on puisse le reconnaître plus tard. Avec cette queue mutilée, il ne fera croire à personne qu'il est à rien.
Très juste.
Par conséquent, il ne nous échappera pas.
Pendant longtemps, ma mère m'allaita. La période d'allaitement fut la période la plus belle. Ma mère avait de gros seins, forts et rebondis, avec des mamelons ronds et charnus. Je tétais avec volupté jusqu'à épuisement. Puis, je posais ma petite tête sur l'un des gros seins et m'endormais.
Continuez votre récit, Jacob Bronski.
Quand j'eus 2 ans, ma mère tomba à nouveau enceinte. Je me dis, Jacob, dans le ventre de ta mère pousse un concurrent. Et il en fut ainsi. Ma mère mit au monde un second fils. Il s'appelait Abel. Je le détestais dès le premier instant. Depuis ce jour, je fus totalement négligé par ma mère. Elle chérissait mon frère toute la sainte journée, l'embrassait, l'allaitait et le laissait dormir entre ses gros seins. Je remarquais qu'Abel se comportait exactement comme moi je m'étais comporté lorsque j'étais bébé. Un beau matin, je décidai de tuer Abel. Je m'approchai de son berceau sur la pointe des pieds. Je constatai qu'il dormait et appuyai un coussin avec force sur sa bouche et son nez jusqu'à ce qu'il fût raide mort.
Ça, je ne le crois pas.
Croyez ce que vous voulez.
Continuez votre récit.
Que voulez-vous que je raconte ?
Une histoire vraie. Une histoire qui ne remonte pas plus loin que vos souvenirs. Racontez-moi par exemple comment Hitler est arrivé au pouvoir.
Quand Hitler arriva au pouvoir, mon père dit qu'à partir de maintenant, les Juifs allaient en baver. À l'école, au début, je remarquais rien des changements qui avaient lieu en Allemagne. Au-dessus de la cour de récréation, flottait un drapeau à la croix gammée que j'aimais bien au fond. Notre professeur ne disait jamais rien à propos des Juifs. C'est seulement quand il fut muté et que nous eûmes un nouveau professeur que les choses changèrent. Celui-ci disait que les Juifs étaient responsables de l'avilissement du peuple allemand, que les Juifs étaient assis sur des tas d'or et saignaient le peuple allemand. Il parlait de la guerre perdue, du complot de la juiverie internationale. Les garçons de ma classe y comprenaient aussi peu qu'au baratin sur l'espace vital, le sang et le sol. Évidemment, personne dans ma classe ne savait que j'étais juif. Mais un jour, ça se sut. À cause de Grete, la bonne, qui venait me chercher après la classe, et qui avait dit au professeur que je devais rester le lendemain à la maison parce que, justement, le lendemain était une fête juive. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Aucun des enfants n'avait jamais vu de juif, car il n'y en avait pas beaucoup dans notre ville. Curieux, ils me demandèrent si, chez moi, j'étais assis sur un tas d'or, et comme je leur dis que non, déçu, ils me frappèrent au visage. Évidemment, je répliquai, ce qui ne fit qu'envenimer les choses. Désormais, je dus me bagarrer quotidiennement.
Bronski, tu sais ce que c'est ?
Un porc ?
C'est un juif.
C'est faux !
Si, c'est vrai. Tu sais pourquoi les juifs ne mangent pas de porc ?
Non.
Parce qu'un porc ne bouffe pas ses congénères.
Mais chez nous, nous mangeons du porc, parce que nous ne sommes pas pratiquants. Seuls mes grands-parents ne mangent pas de porc, parce qu'ils sont pieux.
Des porcs, voilà ce qu'ils sont.
Ce ne sont pas des porcs.
Ah ! Tu me contredis ! Je vais te montrer ce que ça signifie de contredire son professeur. Baisse-toi.
Le professeur avait une canne de jonc longue et fine. Je ne voulus pas pleurer et serrer les dents. Et puis, j'eus quand même une crise de larmes. Le professeur me frappait quasi quotidiennement.
Continuez votre récit.
Le peuple allemand a des yeux pour voir. Il n'a plus d'yeux du tout, le peuple allemand. Il est complètement hypnotisé. Écoute, Nathan, on dit que les nazis vont confisquer tous les biens des juifs.
Je n'y crois pas.
On dit aussi que les juifs vont bientôt devoir porter une étoile pour qu'on puisse les reconnaître dans la rue. Bientôt, il sera trop tard pour émigrer. Quand le flot des réfugiés sera trop important, la plupart des pays vont fermer leurs frontières.
Peut-être pas les États-Unis.
Alors il va falloir te dépêcher. Parce que les Américains ont un système de quotas. Ils n'accordent qu'un nombre limité de visas. Tant que c'est pas ton tour, tu peux rester dans ton merdier. Qu'est-ce que tu vas faire, Nathan ?
Rien du tout. J'attends. Il se fera renverser.
Tu te trompes sur toute la ligne.
Ce renversement aura lieu, c'est sûr. Un jour, tu me donneras raison. Tout s'arrangera.
Puis arriva la nuit de cristal. Ce jour-là, les rêves et les espoirs de mon père s'effondrèrent définitivement. Les synagogues brûlaient en Allemagne. Le magasin de mon père fut complètement détruit et notre appartement incendié. Le lendemain, mon père prit la décision d'émigrer. Il écrivit une lettre désespérée au consul général des États-Unis pour lui expliquer notre situation. La réponse à cette lettre arriva des mois plus tard.
Et qu'a-t-il écrit, le consul général ?
Qu'il fallait se préparer à un délai d'attente de plusieurs années.
Alors, qu'avez-vous fait ?
Nous nous sommes enfuis, ma mère et moi, de l'autre côté de la frontière.
Sans votre père ?
Mon père, lui, est resté en Allemagne. À cause de mes grands-parents, je crois, qui ne pouvaient pas émigrer. Mon père devait s'occuper d'eux et pensait nous rejoindre plus tard. Mais la guerre a commencé et nous avons été séparés. J'ai toujours imaginé que, tous les trois, nous avions passé la guerre à Halle-sur-Saale, une petite ville d'Allemagne, cachée dans une cave. Mais ça s'est pas passé comme ça.
Comment ?
En 1939, aucun pays ne voulait de nous. Le monde entier s'était ligué contre nous. Il n'y avait personne pour nous tendre la main. Je parle de la famille Bronski et de tous ceux qui partageaient le même destin. Tout ce que nous avons pu obtenir était un visa de touriste pour la Roumanie, où nous avions de la famille. Nous y sommes restés jusqu'en 1941. Mais en 1941, un gouvernement fasciste a pris les rênes et fait cause commune avec les nazis. Tous les juifs des régions frontalières furent déportés vers l'Est, en Ukraine. Nous avons été enfermés dans un ghetto. Le ghetto, c'est une sorte d'antichambre de l'enfer. Dans le ghetto régnait la famine et le typhus. Des rafles presque toutes les nuits. Celui qui se faisait prendre était déplacé, puis exécuté quelque part ailleurs.
Vous aviez peur ?
J'avais peur.
Vous aviez faim ?
J'avais faim.
Aviez-vous de l'espoir ?
Parfois. Dans cette nuit sans fin, il y a eu parfois des lueurs d'espoir. C'est l'espoir qui m'a fait vivre.
Combien de temps y êtes-vous resté ?
Presque 1000 jours.
Vous pouvez vous souvenir de chaque jour ?
Je peux pas.
Vous ne voulez pas ?
Je sais pas.
Vous avez tout refoulé ?
Ouais. Et pourtant, c'est pas tout à fait vrai, bien que je dise toujours qu'il y a un grand trou dans ma mémoire. J'écris un livre, vous savez, et en écrivant, beaucoup de choses me reviennent.
Vous écrivez sur tout ce que vous avez refoulé ?
Ouais.
Et vous ne voulez pas me raconter ce que vous avez vécu dans ce ghetto pendant la guerre ?
Je ne le raconte qu'à mon livre.
Alors, racontez-moi comment c'était une fois la guerre finie.
La guerre finie, je me suis regardé dans une glace pour la première fois depuis des années. Mon visage n'avait pas la moindre expression. Les yeux étaient vides. Puis j'étais muet, complètement muet. Je ne prononçais pas un mot. Nous avons rejoint mon père en France. Après avoir été séparé de nous, il avait fui là-bas. Il y avait vécu dans la clandestinité. La famille Bronski a été de nouveau réunie.
Que faisiez-vous en France après la guerre ?
Je vivais au crochet de mon père. Je n'avais pas envie de travailler ni de faire quoi que ce soit d'autre de sérieux.
Vous faisiez bien quelque chose ?
J'allais à la bibliothèque publique et lisais tous les livres possibles et imaginables.
Des histoires de filles, vous en avez eu ?
De temps à autre. Je couchais même avec certaines. Mais à vrai dire, il n'y a jamais eu rien de bien sérieux.
Rien de sérieux ? Ne soyez pas gêné, Jacob Brodsky. Allez cracher le morceau.
Vous savez très bien ce que je veux dire.
Votre queue restait molle ?
C'est ça. Ma queue était molle. J'étais en panne. Jacob Bronski était fini.
Continuez votre récit.
En 1952, nous sommes partis pour l'Amérique. Mais c'était trop tard. Je n'ai pas fait d'études et je n'ai rien appris de sérieux me permettant de gagner mon pain. Alors, à New York, j'ai accepté n'importe quel job que je pouvais trouver. Un jour, j'ai commencé à écrire. Et brusquement, j'étais guéri. Tout ce qui s'était accumulé jaillissait de moi. Et puis, mon désir sexuel s'est réveillé. J'ai constaté, tiens, Bronski, ça marche de nouveau.
Votre queue s'est réveillée.
Oui.
Elle bandait de nouveau.
Oui. De nouveau, je couchais avec des femmes, même si ce n'était que des putes. Mais je n'avais aucune difficulté. Jacob Bronski n'était plus fini. J'ai compris qu'il ne suffit pas de survivre. Survivre, c'est pas assez. J'ai aussi compris que la naissance de chaque être est en même temps sa condamnation à mort. Et je me demande quel sens cela peut avoir. Pourquoi est-ce que je vis ?
Pour chercher, Jacob Bronski. Pour chercher.
Un sens caché dans tout ce non-sens ?
Oui.
Le sens de notre vie serait-il simplement dans cette recherche ?
Je ne sais pas, Jacob Bronski, mais vous trouverez peut-être la réponse un jour.
C'était Fuck America de Edgar Eisenrath, deuxième partie. Traduction, Jörg Stikan. Adaptation, Julien Doumac.
Monsieur Bronski. En ce moment, des millions d'Allemands vous voient et vous entendent.
Je sais.
Pourquoi avez-vous écrit ce livre ?
Pour guérir.
Avec Quentin Bayot dans le rôle de Jacob Bronski. Et
Jean-Marie Winling.
Alain Rimoux.
Alexandre Aubry.
Séguir Mohamedi. Jean-Claude Fréchon.
Alain Fromager.
Sophie Bouillot.
Sylvain Levitte.
Didier Sauvegrain.
Laurent Lédrère.
Miglène Mirtchef.
Laurence Mercier.
Florence Giorgetti.
Vincent Grasse.
Nicolas Gonzalez.
Sophie Froissart.
Véronique Lechat.
Johanna Nizar.
François Gentil.
François Perrache.
Marie Daude.
Julie Pouillon.
Guillaume Clessen.
Paul Schmitt.
Georges Serre.
Vincent Schmitt.
Mathias Girby.
Monsieur Bronski, avez-vous quelque chose à dire au peuple allemand ?
Au vieux, j'ai rien à dire. Ils savent.
Et les voix de Charles Clément, Anna-Amélie Heinz, Michel Baladi, Delphine Augereau, Bob Eisenstein, Marie Constant, Talever Schibowski, Michel Bachevel, Aurélien Osinski, Philippe Mambon, Henri Alexandre, Myrène Astré et la voix de Thierry Beauchamp.
Et aux jeunes, je voudrais dire aux jeunes, lisez mon livre.
Merci à Benoît Viro et Franck Lilin.
Mon livre contre la violence et la barbarie. Le branleur. Le branleur.
Bruitage, Patrick Martinache. Création sonore et musicale, Dominique Massa. Prise de son, montage et mixage, Julien Doumac, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, François Christophe. Folk America de Edgar Eisenrath est publié aux éditions Attila.
Vous pouvez podcaster l'adaptation en deux parties du roman Folk America d'Edgar Eisenrath sur le portail de la fiction de France Culture. Demain soir, dans les ateliers de la nuit, un hommage au maître du flamenco, Paco de Lucía, disparu il y a un an.